Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour à tous, bienvenue aux grandes voix. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrero.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Au programme de cette émission de ce samedi, le déferlement Lola, lorsqu'un fait divers questionne la politique française en matière d'immigration. Les voix se sont fait entendre jusque dans les hémicycles parlementaires où les députés et sénateurs ont dégainé cet argument. Si Dabiabé, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, avait été renvoyé en Algérie comme il le fallait, Lola, 12 ans, serait encore en vie. La première ministre s'offusque, demandant d'éviter les récupérations politiques. Premier thème de discussion. L'Europe craque et nous avec. Les 27 ont sur la table un accord proposé par l'Italien Mario Draghi, mais ce même Draghi a averti. Plutôt que de faire semblant, admettons que nous sommes divisés. Et si l'Europe se divise, c'est Poutine qui gagne. Avec ces mots qui sonnent comme une évidence, les Européens n'ont-ils pas une obligation de résultat? En Grande-Bretagne, c'est pas mieux. Les détournements pullulent sur les réseaux sociaux, montrant par exemple 10 Downing Street comme étant un Airbnb, tant le mandat de Liz Truss a été court. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le grand retour de Bojo? En Angleterre, comme toujours, tout est possible. Nous parlerons aussi de l'Ukraine et cette nouvelle arme fatale du Kremlin, les drones iraniens à bas coût qui terrorisent les populations. Cette fois-ci, Vladimir le Terrible a définitivement endossé les habits de Joseph Staline. Sans doute va-t-il affamer et faire mourir de froid l'Ukraine cet hiver. Enfin, nous ferons un tour au mondial de l'automobile qui, au-delà des quatre roues et du volant, pose une nouvelle donne de politique mondiale. La voiture, synonyme des Français, est morte. Place aux véhicules chinois, électriques et surtout hors de prix. On en parle en fin d'émission. Vous avez le programme. Les images de vidéosurveillance de la résidence Manin dans le 19e arrondissement de Paris sont formelles. À 15h20, le vendredi 14 octobre 2022, Lola, la fille des gardiens, passe bien à la porte de l'immeuble. Et pourtant, elle n'est jamais rentrée chez elle, car en même temps, Dabiabé, une marginale de 24 ans, passe avec elle et lui adresse la parole. Et puis après, le blackout. Lola ressortira de l'immeuble morte, le corps scarifié, recroquevillé dans une malle, en plein jour dans Paris, au vu et au su des populations. Trop occupées à leur quotidien, à leur smartphone, ces Français du 21e siècle qui ne regardent pas les autres. Et puis la question a été posée dans les rangs de l'hémicycle du Sénat et de l'Assemblée. La meurtrière, sous le coup d'une OQTF, avait disparu des écrans radars. Si elle avait été expulsée, Lola, 12 ans, cette gamine joyeuse aux cheveux blonds qui aimait jouer au foot avec ses copains, serait toujours en vie. Est-ce qu'on a eu raison de poser cette question et de relier la question du meurtre à la question de l'immigration?
Oui. Oui, enfin, je réponds le premier Gérard parce Carreau. Que vous me regardez.
Je regarde tout le monde.
Je réponds oui, on a eu question. Mais avant de répondre d'un mot, je voudrais quand même dire que, comme probablement tout le monde autour de la table et bien au-delà, j'ai éprouvé de l'effroi et de la colère quand même. De l'effroi, mais aussi de la colère, parce que je ne peux pas arriver, en tant que père, en tant que grand-père, je ne peux pas arriver à comprendre ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays, avec un drame pareil, on peut effectivement invoquer tout ce qu'on veut, le mal absolu, si on est catholique, chrétien ou pas. Mais le deuxième sentiment, tout de suite, presque en même temps, ça a été effectivement la faute à qui. On ne peut pas ne pas se poser la question. C'est pour ça que toutes les tentatives des unes ou des uns qui ont été essayées de dire « Oh, mais c'est le moment, c'est pas le moment, c'est le moment du recueillement, puis de la famille. » Tout ça, c'est une manière de vouloir esquiver le problème de fond. C'est comment en est-on arrivé là? Ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. J'abuse pas là-dessus. Et puis, j'aurais souhaité quand même qui est, comme on l'avait vu dans quelques moments historiques, qui ait eu une sorte de sursaut du peuple. Alors, pas une manifestation, pas des slogans, mais peut-être simplement dire aux gens à midi, aujourd'hui, toute la France prend une minute de silence et pense à Lola et aux enfants.
Michel Cotta.
Oui, moi je pense qu'on a effectivement eu tort de lier immédiatement ce qu'on fait... ce qu'a fait la droite
à
l'Assemblée nationale.
Je crois qu'on a eu tort. Parce que, de l'Assemblée nationale et Bruno Retailleau au Sénat.
Oui, il me semble qu'il y a deux aspects complètement différents. La première est l'horreur de ce meurtre. Mais je pense qu'il y a eu d'autres meurtres et d'autres horreurs qui ont été commis, pas forcément par des gens, par des femmes ou par des hommes qui étaient... obligé de quitter le territoire français qui ne le faisait pas. Donc je pense que d'un côté, il faut se demander effectivement où on est dans cette société, où, etc. Bon, mais on ne peut pas non plus se dire...
Donc c'est de la récupération politique pour vous ?
Il y a une récupération politique, mais qui était inévitable. Mmh. Et deuxièmement, je pense que c'est quand même un problème qui, en dehors des faits, pose la question de ce qu'on fait des immigrés. Ça n'a rien à voir, peut-être, mais en tout cas, les questions sont concomitantes, forcément. Comment on se débarrasse des gens dont on doit se débarrasser.
Catherine Ney.
Non, mais c'est vrai que le meurtre d'un enfant dans notre histoire, ça a toujours bouleversé des gens. Bon, il y a d'abord eu, Philippe Bertrand, 7 ans, tué par Patrick Henry, souvenez-vous, là, c'était quelque chose. Après, vous vous souvenez, Roger Giquel avait
dit... La France
a peur. La France a peur, donc c'est quelque chose qui nous a marqué. Il y a eu le petit Grégory.
Donc tout ça. Et dont là, on ne connaît toujours pas le meurtrier.
Oui. Et là, il y a cette petite fille, qui est morte, mais si vite, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
En plein jour. Dans Paris, avec plein de monde
autour. Dans Paris, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a pris à cette femme ? Est-ce que c'était la vengeance ? Est-ce que c'est une pulsion homosexuelle ? Qu'est-ce que c'est, en tous les cas ? Mais surtout, voilà, ce qui est nouveau, c'est que dans ce meurtre-là, le suspect, le meurtrier, qui est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de chez nous et qui n'aurait pas dû l'être. Donc, c'est ça qui va faire que ça aggrave le sentiment d'insécurité, qui est très fort, surtout qu'en ce moment... toutes les agressions dans les villes, encore à Créteil hier, où une magistrate a failli être violée par un Algérien de 23 ans qui, dans la rue, qui voulait la violer et qui avait l'ordre de partir. Donc c'est pour ça qu'on le relie à l'immigration. Parce que ces choses-là terribles qui arrivent et qui sont des faits divers, eh bien là, celui-là qui est terrible, voilà.
Charles Villeneuve. Ouais.
Ben oui.
Difficile.
Moi, ce qui est indécent dans la réponse de la Première ministre, notamment au Sénat, parce que Bruno Retailleau a posé la question précise, il a évité l'outrance, et du coup, la réponse de la Première ministre est tombée à plat. On ne peut pas passer par perte et profit une affaire d'une telle barbarie qui survient après d'autres assassinats, beaucoup d'autres, commis par des étrangers qui n'avaient rien à faire sur le territoire français. C'est une affaire qui touche à deux soucis principaux des Français, l'immigration et la sécurité. Parce qu'elle met en exergue ce qu'on appelle l'OQTF, c'est-à-dire la perte de contrôle de l'État sur la résolution des OQTF. Depuis des années, bien avant Macron, tous les systèmes politiques ont échoué dans l'OQTF. Parce que nous faisons des concessions à l'Algérie, notamment dans les accords du 27 décembre 68, extravagants. Le contexte économique et politique n'est plus le même. Nous devons remettre en question tous ces accords. Si j'énumère tous les avantages de l'Algérie, qui refuse catégoriquement tout OQTF, vous savez c'est ce que c'est, le statut de l'obligation de quitter le territoire français, dont la PEC du numéro 1, de nationalité algérienne, était frappé et qui n'a jamais été exécuté. Vous avez 30 jours pour partir, l'OQTF. On vous invite à partir. Elle a commis, du moins, le crime présumé, puisqu'elle est toujours dans situation d'une présomption d'innocence, puisqu'elle n'a pas été jugée 60 jours après la décision de l'OQTF. Bon. Eh bien, c'est cette perte du contrôle de l'État qui est le plus grave. Et d'ailleurs, Mme Macron l'a très bien senti. Quand elle a fait une déclaration réellement politique, la seule qui a été décente dans cette affaire. Quand elle est allée voir la famille, en sortant, elle a dit « c'est impardonnable, c'est insupportable ». Et c'est exactement le sentiment général des Français par rapport à un fait divers dont la résonance est majeure.
Catherine et ensuite Michel.
Non, ce qui est ennuyeux dans cette histoire, c'est que cette jeune femme est algérienne. Elle était entrée avec un visa d'étudiante, d'ailleurs d'études qu'elle n'a pas faites. Et à un moment où, quand même, et là c'est politique, le président de la République est allé en voyage à l'invitation des Algériens au mois d'août. Et c'était pour qu'ils reviennent. Enfin, ils n'allaient pas pour nouer de nouveaux contrats de gaz. On pensait que c'était ça quand même l'essentiel pour la France.
Bon.
Et il n'en a pas été question. Mais il a été question de nouveaux rapports et les Algériens lui ont fait vraiment des courbettes et il a lâché sur de nouveaux visas pour les étudiants, au moins 8 000, voyez, alors qu'on les avait réduits depuis 2 ans. Donc ça, et on voit bien que les Algériens, vous voyez, il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans, a besoin de cette soupape pour que les jeunes partent, ne défilent plus dans les rues. Et c'est pour eux, c'est voilà. Mais quelle contrepartie a le président? On n'en sait rien. Et je veux dire, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il y a 15 ministres qui sont allés en Algérie encore faire des courbettes. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? On n'en sait rien. En tous les cas, je pense que sur les visas, on
lâche. Il y a trop d'opacité là-dessus.
Il y a une opacité, et c'est ça qui est très malsain.
Notre discussion démontre formidablement à quel point il y a quand même deux problèmes différents. Quand Catherine dit oui, effectivement, il y a eu le meurtre de Patrick Henry, il y a eu des meurtres faits par des Français, faits par des citoyens à part entière. Bon, ça, au fond. On s'aperçoit que
c'était des faits divers.
Une fois qu'on s'est attristé, une fois qu'on s'est dit comment c'est possible, comment on peut supporter ça, quelle famille merveilleuse. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, on arrive directement à l'autre problème. Mais c'est bien un autre problème qui est le problème de l'expulsion possible des gens qui sont
de la nationalité du criminel
et des gens qui en plus l'expulsion des gens qui ont commis déjà des crimes. Ça, on voit bien qu'on est dans une impasse totale et dans une impasse qui menace l'intégralité de tous les politiques et depuis des années.
Écoutez, moi, au risque de... Je m'en fous, à la limite. On va dire encore c'est une dérive raciste. Oui, il faut parler de l'Algérie. Je suis désolé, mais il faut parler. On en a parlé. Et Charles vient d'avoir, et je vais d'ailleurs y revenir, a raison de rappeler ce que sont les conditions dérogatoires, particulières pour les Algériens depuis les accords de 1968, c'est-à-dire juste après les accords de paix en Algérie. Ces accords, aujourd'hui, n'ont plus de raison d'être. Ils sont dépassés. Ils permettent, là, tu as dit, on devrait les citer. Je vais les citer, en citer quelques-uns. C'est l'ambassadeur de France, l'ex-ambassadeur Driancourt, qui le rappelle dans un papier du Figaro il y a quelques jours.
Il a fait deux mandats
d'Algérie.
Il faut lire l'énigme algérienne.
Ces accords comprennent de nombreuses dispositions dérogatoires par rapport aux autres nationalités, y compris les Marocains et les Tunisiens. Certificat de résidence de 10 ans, régularisation des sans-papiers facilités, regroupement familial accéléré, conditions d'intégration dans la société française assouplies par rapport aux autres nationalités, visa étudiant assez généreux, etc. etc.
Oui. Visa étudiant, ça avait un sens dans le contexte historique de l'époque, aujourd'hui.
Mais regardez, visa étudiant, mais est-ce qu'on a quand même assez rappelé que cette femme, cette meurtrière présumée, c'est le cas typique. C'est une fausse étudiante. Et combien parmi les dizaines de milliers qui rentrent avec des visas d'étudiants sont des faux étudiants qui s'inscrivent.
Ils ne sont pas forcément des criminels qui découpent des enfants en morceaux.
Michel, je sais ce que je dis et les mots comptent. J'ai pas dit que c'était des criminels. J'ai dit que c'était des faux étudiants. Et dans les faux étudiants qui vivent donc au crochet de la France à travers ces accords dérogatoires, il y a et il y aura d'autres criminels. Au nom de du mélange, on essaye de nous faire croire que... Alors on va dire, c'est des propos intensément racistes. Eh ben, je m'en fiche, je les assume.
Calme-toi.
Mais je me calme, je suis très calme. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus.
Mais c'est le générique de seconde.
Il y a de vrais étudiants aussi.
Oui. J'ai pas dit qu'ils étaient tous. J'ai dit il y a beaucoup de faux étudiants.
Oui, oui.
Parmi les milliers d'étudiants, il y a des faux.
Charles, pour le mot de la fin, on passe à autre chose.
La question est que si bien mes camarades ont abordé l'histoire des négociations du président de la République, puis de la première ministre qui est allée. Et c'est vrai qu'on ne sait rien de ces négociations. Il est très surprenant que les oppositions n'interpellent pas le gouvernement pour réclamer des comptes à l'Assemblée ou au Sénat. C'est très étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a cédé? Qu'est-ce qu'on a négocié? Il est normal de le savoir.
Depuis deux mois, l'Algérie a choisi comme deuxième langue officielle non plus le français, que Bouteflika prenait pour une prise de guerre, mais c'est l'anglais.
Eh bien, c'est une marque. 10h21, une pause et on parle de l'Europe.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta et Gérard Carrérou, c'est comme un vase qu'on recolle à chaque fois. Il tombe, on recolle, il retombe, on recolle. On a tout essayé, la colle classique, la Super Glue 3. Maintenant, on est au scotch et ça se voit. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les 27 pays membres de l'Union européenne qui ont encore trouvé bon de se réunir à Bruxelles pour trouver une solution, notamment sur la crise énergétique. Charles Michel pense que trouver un accord, ça sera difficile, notamment sur le plafonnement du prix du gaz. Doux euphémisme, car celui qui a sorti son AK-47 jeudi, c'est Mario Draghi, pour qui c'est le dernier sommet. Le président sortant du Conseil italien a été clair. Nous sommes en récession, nous sommes divisés, arrêtons de faire semblant. Et cette division de l'Europe, eh bien, Poutine gagne. Et c'est justement ce même Mario Draghi qui propose un compromis, mais dans le fond, sur la division, Charles Villeneuve, il n'a pas tort.
Non, il n'a pas tort, mais on est en train de redécouvrir que chaque pays, notamment les plus puissants comme l'Allemagne, font passer leurs intérêts nationaux avant l'appartenance à l'Union européenne, avant leur sentiment pro-européen. Et ce n'est pas étonnant que l'Allemagne ait cette position et même ses propres négociations. Parce que n'oublions pas qu'elle n'a plus le gaz russe et qu'elle est sortie du nucléaire, même si elle maintient 3 de ses réacteurs, contre vent et marée notamment. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le compromis politique qui gouverne l'Allemagne, il y a un poids très important des Verts. Et que le nouveau chancelier, comme diraient la plupart des gens du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, est un Allemand du Nord. Donc un Allemand qui n'est pas très favorable en général, à la France. Et c'est vrai, et on le constate. Et puis, ils ont choisi les Allemands, en même temps que des pays baltes, que notamment plusieurs anciens pays de l'Est placés sous l'égide de l'Union soviétique. Ils ont choisi clairement les États-Unis et l'OTAN.
Michel Cotta.
C'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'amitié franco-allemande soit son plus haut. Parce que je rappelle simplement ce qui s'est passé en quelques mois. Hein. D'abord, les Allemands veulent maintenir le deuxième Nord Stream. On leur dit que non. Ils achètent des F-35 américains au lieu d'acheter des Rafales lorsqu'ils le réarment. Ils font un bouclier anti-aérien sur l'Ukraine, d'où ils excluent la France. Et enfin, pour finir, c'est ça qui a été le plus important, 200 milliards donnés pour lutter contre la crise, c'est effectivement accroître d'une manière incroyable les inégalités en Europe. Maintenant, la faute à qui? Ils ont les 200 milliards.
Ils les avaient dans les caisses, alors que nous vivons sur l'endettement.
Effectivement, mais je pense que du côté du chancelier Scholz, il y a quand même un problème presque psychologique.
Oula.
Au fond, Angela Merkel a été, pendant tout son règne, si j'ose dire, partisan d'un rapprochement avec la Russie. Et au fond, ce que veut lui faire payer, ce que veut essayer de ne pas porter, c'est cette responsabilité d'Angela Merkel sur son rapprochement avec Poutine, qui a donné malheureusement le contraire de ce à quoi elle pouvait s'attendre.
On continue de parler de l'Europe juste après une nouvelle pause.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
En compagnie des grandes voix et Catherine Ney, Olaf Scholz qui va rencontrer Emmanuel Macron d'ailleurs cette semaine.
Bah oui, mais je crois qu'il y avait un sommet qui était franco-allemand qui a été annulé quand même. Ils vont se rencontrer, mais une poignée de main amicale et tout ça. Mais chacun est sur ses positions. Je veux dire, l'Allemagne est un grand pays industriel qui a besoin d'énergie. Bon, là, avec les ruptures avec la Russie, je veux dire, Olaf Scholz n'a qu'une idée. Il se balade partout dans le monde pour essayer de négocier des contrats de gaz avec le Qatar, avec l'Algérie.
En fait.
Il est allé partout et donc il ne veut pas entendre parler de plafonnement du prix parce que des clients pourraient se dire eh « ben non, on ne marche pas ». Donc c'est deux visions et les 200 milliards d'euros, c'est au profit de ses seuls concitoyens. Il n'y a aucune raison non plus que les 200 milliards qu'il avait dans ses caisses, il le mette sur la table pour profiter entre tous les Européens qui gèrent plus ou moins bien leur pays. Et là, il ne peut pas dire, entre Emmanuel Macron et lui, ces deux systèmes économiques tellement différents qu'ils ne peuvent être absolument pas...
Ils ne peuvent pas s'entendre.
Mais ce que je trouve terrible, c'est le congrès des Verts, là, allemand, qui vient de dégommer, d'ailleurs le plus grand mal, de l'industrie nucléaire française. Alors qu'ils ont créé leurs propres problèmes et que vraiment, et pour ces Allemands, la France, c'est illégitime que la France ait un peu d'énergie pas trop chère. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est ce qu'on appelle de la politique. Gérard Carrérou.
Je crois qu'il faut sortir une fois pour toutes de l'image d'Épinal de l'Europe. Pour beaucoup de Français, c'est l'Europe depuis le général de Gaulle, l'Europe de Gaulle à Adenauer, cette Europe qui nous évite la guerre, comme disait Mitterrand, etc. Oui. Nous sommes longtemps après, oui. Quelques dizaines d'années après, on s'aperçoit que quoi, hein, l'Allemagne n'est plus la même Allemagne parce qu'il y en avait deux et il n'y en a plus qu'une, extrêmement puissante par rapport aux deux qui étaient petites d'après la guerre. Elle n'a pas changé son cap. Elle, économique notamment, elle regarde toujours vers l'Est. Alors simplement, ce qui a changé, c'est qu'elle ne regarde pas vers la Russie, pour des tas de raisons, j'entre pas dans l'histoire de la guerre, mais elle regarde vers les pays de l'Est. Elle regarde de plus en plus vers les pays baltes, vers la Pologne, vers les autres pays où elle trouve effectivement sa main-d'œuvre, des accords, etc. Donc l'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts économique que nous dans ce domaine. Et deuxième chose, dans le même temps où l'Allemagne regarde vers l'Est pour l'économie, il y a un rapprochement vers l'Ouest américain, c'est-à-dire vers l'OTAN. L'OTAN était en mort cérébrale, disait Macron. Aujourd'hui, l'OTAN, du fait de la guerre d'Ukraine, est redevenu étincelant. Et cet OTAN étincelant, qui a repris ses couleurs, nous tire. Donc je pense qu'il y a urgence pour la France de reconsidérer, là aussi, un peu nos alliances. C'est-à-dire, je crois que ça va dans le bon sens de regarder ce qui se passe du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne et du Portugal. Disons, ce qui était autrefois l'idée d'une Europe plus latine que germanique. Je pense que si on ne fait pas ça, on va continuer à être toujours derrière, faire la courte.
Mais en réalité, on se dit Michel que Godard. L'Europe... Enfin, moi, je suis très frappé par le fait que l'Europe n'existe plus. Elle se... On ne le dit pas, mais si on additionne la Grande-Bretagne, le débat franco-allemand, le problème de la Hongrie et la Pologne qui sont sanctionnés par Bruxelles, le problème de l'Italie, où on ne sait pas quel gouvernement, pourquoi, on se dit... Où est l'Europe aujourd'hui? Et au fond, moi, je me dis que c'est la plus grande. Moi, je me dis que c'est la plus grande victoire de Poutine, quand même, d'être arrivé à casser. Peut-être que la proposition Draghi va marcher.
J'en sais rien. La dernière chance,
mais en tout cas, c'est une Europe dans un très mauvais état que domine un duo de Bruxelles qui pousse les choses jusqu'au bout et au fond. Qui ne repose sur pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas d'union derrière elle.
C'est les Atlantistes forcenés.
On oublie que l'Allemagne et la France ont toujours eu besoin d'un projet nouveau, et il y en a eu un paquet. Ouais. Maastricht, l'Union européenne, l'euro, et le plan post-Covid aussi, qui a très bien marché. Donc il s'agit de réinjecter un projet nouveau pour essayer de relancer le couple. Parce que pour nous, il y a deux pays qui sont essentiels pour la diplomatie, pour l'industrie, pour les échanges commerciaux, c'est l'Allemagne et c'est l'Algérie aussi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en difficulté sur ces deux fronts à l'heure actuelle et que c'est au président de trouver la solution aussi et de proposer des projets nouveaux, pas seulement à l'Allemagne, mais surtout de nouveaux accords dans le cadre de ce qu'a décrit tout à l'heure Carrérou sur les accords de 68.
De ce point de vue, le départ de Draghi... se marquera beaucoup dans leur...
C'est
une grosse difficulté. On s'apercevra que vraiment sa réussite à la tête de l'Italie a été
Et déjà le sommet franco-italien a été abandonné, on l'a appris cette semaine. Catherine, on est en marge de l'Europe, mais c'est quand même... Ça a été l'Europe il n'y a pas très longtemps. Vous vouliez dire un mot de Liz Truss quand même
Oui, elle ne sera restée que 44 jours et on oublie de retirer les 10 jours du deuil de la reine. Elle est la dernière première ministre avoir vu, mais là, c'est vrai que ce qui se passe en Angleterre en ce moment, c'est que le Brexit est en train de manger tous ses enfants. Je cite là un journaliste du britannique de Sky News qui disait « Mon fils a déjà connu 4 chanceliers de l'échiquier, 3 secrétaires d'État à l'intérieur, 2 premiers ministres et 2 monarques. Il n'est âgé que de 4 mois. » Vous voyez, bon, donc, je vais vous dire là, donc en ce moment, bon, or, Le Parti conservateur qui a donné le pouvoir à Liz Truss, il savait très bien que son programme était inapplicable, que ça allait même à l'encontre de ce qu'il fallait faire. Alors c'est à eux aussi de battre leur coup. Pourquoi l'ont-ils élu ? pourquoi le... Bon, après, elle a changé d'avis. Mais je veux dire, qui va sortir de ça? Quand on dit que Boris Johnson, qui a été un grand menteur, qui a été celui qui a amené au Brexit presque sur un coup de dé, pourrait revenir parce que même certains regrettaient ses diableries et parce qu'il les faisait rire. Donc, on se dit d'un autre côté, on a de la chance, nous, Français, de vivre, malgré tout, dans une forme de stabilité, parce qu'il y a les institutions et la politique sociale qui durera ce qu'elle durera.
Bon, en tout cas...
Oui, mais moi, je ne serais pas surpris que, malgré le fait que ce soit un grand menteur, que Boris... Bon, on dit qu'il a à peu près 70 députés favorables, là, ce matin.
Oui.
Il en faut déjà une bonne centaine.
J'étais resté à 100, moi, tout à l'heure, on a entendu dans le flash.
Combien vous avez entendu ?
100.
100. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il a une chance. Pourquoi pas ? Parce qu'il est menteur.
Oui.
Mais parce qu'il a, une capacité de leadership.
Ouais. Il a du talent.
Oui. Voilà. Le problème, c'est que dans les républiques faibles, et là, on est l'Angleterre, la grande monarchie, et sur le plan parlementaire aujourd'hui, faiblarde, une personnalité forte peut l'emporter.
Mais ce n'est pas quelqu'un d'indifférent.
Et Liz Truss n'était pas Margaret Thatcher.
Je voudrais simplement...
Un petit mot, et puis après, on passe à l'autre.
Peut-être qu'on peut se dire qu'un des drames du Parti conservateur, c'est le choix... de leurs dirigeants. Parce qu'au fond, on s'est aperçu que Liz Truss avait été élue par les militants, qui par conséquent sont plutôt, ont accepté le programme, démagogue, etc.
Mais là encore,
tandis
ça
que son adversaire était soutenu par les députés. Donc ça pose quand même le problème de la désignation du leader, ce soit en Angleterre ou que ce soit en France. Ou que ce soit en France, et on va s'en apercevoir dans les années qui viennent.
Vous me ferez le plaisir de regarder les détournements, notamment le détournement de la photo, la dernière photo entre la reine et Liz Truss, dont on a beaucoup parlé justement au moment de la reine, où vous avez
la reine
dit « Vous n'allez pas rester... » C'est Liz Truss qui dit à la reine « Vous n'allez pas rester longtemps. »
Et vous non plus.
Et bien vous non plus. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Mais la reine n'avait pas voulu de photo avec Boris Johnson. C'était pour montrer qu'au fond, son dernier message politique, elle était contre le Brexit.
C'était une forme de bras d'honneur. 10h38, on continue.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Depuis le début de la guerre, l'obsession de tous est de savoir quand est-ce que Vladimir Poutine appuiera sur le bouton nucléaire. On a tout dit de lui, y compris qu'il était fou allié et donc prêt à le faire. Depuis son étagné bluff, ce n'est pas du bluff, le patron du Kremlin n'a pas actionné la fin du monde, mais a récemment trouvé une nouvelle tactique pour semer la peur dans le peuple ukrainien. Fini les chars et les blindés trop obsolètes, excite l'aviation trop risquée avec la défense anti-aérienne ukrainienne, toujours pas de nucléaire tactique et heureusement, alors voici les drones. Des drones légers, pas chers, 20 000 euros environ, de fabrication iranienne. Il en pleut comme des gouttes de pluie, en particulier sur Kiev. Des civils sont tués. Et pour l'heure, ça fonctionne car les militaires ukrainiens sont totalement dépassés. Charles Villeneuve.
Oui, je nuancerai, si vous voulez, votre dernier propos largement. En réalité, ils ont changé pour essayer de stopper la spirale de recul et de défaite, l'armée russe réelle. Ils ont changé brutalement, non seulement de tactique, mais de stratégie. Alors, en effet, il y a l'appui de ces nouveaux drones qui ont une caractéristique largement supérieure à celle des Turcs, ce qui fait le désespoir des Turcs, d'ailleurs. Iraniens, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils portent à 1000 km, ils ont 30 à 40 kilos, et ils ont ciblé toutes les centrales électriques pour provoquer, en effet, des extinctions de lumière, mais pas seulement... du chauffage aussi. Donc c'est tout à fait une nouvelle stratégie, et tout à l'heure peut-être que Catherine dira que c'est tout à fait dans le style Staline. Oui. Elle parlera de l'énorme...
Laissez-lui la primeur de le dire.
Voilà. Mais si vous voulez, ce qu'il y a de très important, c'est le siège de Kherson. Pourquoi c'est très important ? Parce que si les Ukrainiens rentrent dans Kherson, qui est en train d'être évacué, et ce que je crains personnellement, c'est que cette évacuation ordonnée par les Russes annonce peut-être une bataille à la Stalingrad. C'est-à-dire que les Russes vont bombarder à grand renfort d'obus, de canons, de 155 et tout ce que vous voulez, la ville pour l'anéantir. Et c'est la porte ouverte vers Odessa. C'est ça la stratégie qui s'annonce.
Kherson, c'est à l'est sur la mer d'Azov. Hein,
oui, c'est ça. Ça ouvre sur la mer d'Azov. C'est le sud de la Crimée, mais surtout, ça ouvre sur l'ouest, vers Odessa, qui est le principal port d'export de la mer Noire, et l'ouverture vers la mer Chaude, notamment par le détroit des Dardanelles.
Non, ce qui fait peur en ce moment, c'est qu'on se demande pourquoi Kherson est évacué. La rumeur est que le barrage sur le Dniepr est miné. Est-ce qu'il veut absolument provoquer une inondation majeure, mais si ce barrage saute, ça veut dire aussi que la Crimée ne serait plus approvisionnée en eau. Alors donc, on peut quand même penser... Mais ce barrage sert aussi à refroidir la centrale de Zaporizhzhia.
On n'en est pas certain, Catherine.
On n'en est pas certain.
C'est Zelensky qui l'annonce.
Oui, mais ça fait peur aussi. Pourquoi ?
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse. En tous les cas, le fait que les Russes évacuent la région de Kherson, c'est qu'il va se passer quelque chose, des bombardements, chose, ça va être un déluge de feu.
C'est un deuxième
En tout cas, j'apprends par l'AFP que de nouvelles frappes provoquent des coupures de courant dans plusieurs régions.
Mais sur Kherson, là, dont vous avez parlé tous les deux, Charles et Catherine, moi je vais pas faire les stratèges en chambre, il y en a déjà trop sur les chaînes un peu partout, mais il me semble quand même que c'est pas de la stratégie là. Dans la tête de Poutine, comme dans la tête de beaucoup de Russes, il y a les grands mythes fondateurs. Et parmi les grands mythes fondateurs, il y a Stalingrad. Moi, depuis que je suis né en 42, j'ai toujours entendu parler, quand j'étais gosse, Stalingrad, l'héroïsme de Stalingrad, les Russes à Stalingrad, etc. Et il n'y a pas que moi qui en ai entendu parler, les Russes aussi. Ils ont été nourris au lait de Stalingrad depuis toujours. Et je crois que l'idée, peut-être, de faire de Kherson une résistance... Alors, on enlève les populations de manière à ce qu'il n'y ait pas des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de morts. Mais on voit une ville qui peu à peu... C'est possible qu'il ait ça en tête pour créer... Parce que ce qu'il n'a pas réussi à créer, et ce que les Ukrainiens ont créé depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire depuis plus de 6 mois maintenant, c'est qu'ils ont retrouvé un mythe national, un esprit national. Et c'est ça qui leur a donné la victoire et les ailes de la victoire. Les Russes, aujourd'hui, on sent bien que ça peine de tous les côtés. Ils n'ont plus retrouvé cet esprit
on
national.
Dit ça, mais il y a quelques temps, je vous rappelle qu'il y a 5 semaines ou 4 semaines, on disait c'est plié pour la Russie. Les Ukrainiens.
On n'a pas dit ça ici parce qu'on est très prudent.
On a dit il faut rester prudent, etc. Mais en gros, l'image était que les Ukrainiens étaient en train de gagner. On s'est dit la mobilisation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et bien finalement, au bout du compte, quand il y a des gens, même qui ne sont pas des soldats formidables, sur le terrain, le nombre fait que ça change.
Le nombre,
par conséquent, par conséquent, on est reparti là dans
besoin
un...
du nombre.
Je pense quand même que la volonté de faire partir les gens de Poutine montre qu'il fera sans doute... à Kherson, bien sûr, il fera sans doute un bombardement massif, mais là, il préfère quand même éviter de tuer sa propre population, d'ailleurs, parce qu'il y a des Russes, il y a des russophiles là-dedans, et quand même trop de population ukrainienne qu'on ne lui pardonnerait pas. Ouais. Donc je pense que c'est
80%. D'Ukrainiens et 14% de Russes.
Voilà,
c'est la raison pour laquelle, avec surprise, il déclare une loi martiale parce que, soi-disant, c'était la population qui a réclamé l'annexion de la part de la Russie. En réalité, c'est une infime minorité.
Il vaut mieux quand même les éviter. Il vaut mieux quand même éviter.
Moi, je crois que c'est pas. On peut anéantir un pays sans le nucléaire. C'est-à-dire, à partir du moment où vous coupez l'électricité, qu'il n'y a plus de chauffage, qu'il n'y a plus d'eau, que les gens vont mourir de faim. Et ça, Staline, pour Poutine, est sûrement un modèle.
Surtout en Ukraine.
Et en ce moment, les Russes empêchent les Ukrainiens d'exporter leur bateau de céréales.
Par
Odessa. Donc, on voit bien qu'ils sont en train de faire un blocus mortel pour des tas d'Ukrainiens. Et ce qui va se passer dans les mois d'hiver qui vont arriver, mais les gens, ce que je crains, vont mourir sans même avoir des drones tous les jours sur la tête. Quoi. Ouais. C'est ça qui est terrible.
Vous avez vu que Ursula von der Leyen a quand même projeté de fournir une aide de 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine dès 2023. Ouais,
c'est vrai qu'on se dit qu'à un moment donné... l'argent déversé, surtout, on voit quand même que certaines armes ne sont pas accordées aux Ukrainiens, y compris par les Américains, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent trop loin. Donc ces aides-là, au fond, on se demande si ça ne fait pas durer la guerre éternellement et si ce n'est pas...
Un pansement sur une jambe de bois.
Un pansement sur une jambe de bois qui n'empêche pas
l'anéantissement du pays, comme on vient de le dire. Charles Villeneuve.
Non, c'est intéressant ce que Catherine a évoqué en parlant de la grande famine en Ukraine. N'oublions pas que l'Ukraine est le grenier à blé de la Russie. Et Staline, en 1932-33, a provoqué cette grande famine en stoppant, en s'arrogeant complètement
ce stock,
toutes les réserves de blé qu'il a revendues à l'extérieur. Et on l'a appris. Il faut lire, par exemple, le journal de l'Humanité en France en 1933-34, où qui dit que tout ça est pas du tout, que tout va très bien, que c'est parfait, etc. etc. Même Édouard Herriot, d'ailleurs, qui était président du Conseil, a été invité à Moscou et il est revenu en disant « Mais tout est faux, tout va très bien, les Ukrainiens. » Les Ukrainiens crevaient de faim et mouraient par dizaines et par centaines, 5 millions de morts.
Oui, qui ramassait un grain de blé à côté d'un silo qui était plein était fusillé. Donc, on est frappé de. On croit toujours que l'homme s'améliore et que la barbarie passée, eh ben, c'est un temps révolu. Eh bien, c'est pas vrai.
Moi,
on s'aperçoit que dans un pays, c'est les mêmes.
Ben, je veux dire, c'est drôle. Ça n'a rien de drôle. Mais moi, je me demande alors pourquoi les Russes n'ont pas commencé comme ça ? Pourquoi ont-ils commencé d'une façon...
Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient entrer dans le
beurre. Quand on disait à un moment donné, ils en ont encore sous le pied, et bien ils en ont sous le pied.
Et bien nous, on en a sous le pied, 10h50 en voiture Sim.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix, et c'est unanime. Tous ceux qui sont allés visiter le mondial de l'auto Porte de Versailles en reviennent déçus. Pourquoi ? Parce qu'à part 4 ou 5 nouveautés de chez Stellantis, idem chez Renault et Dacia, rien, absolument rien. Aucune marque allemande, anglaise, italienne, pas d'américain. Ah si, pardon, des chinois et des vietnamiens en mode 100% électrique. Et patatras, la polémique est arrivée aussitôt. Luca De Meo, le patron de Renault, et Carlos Tavares, patron de Stellantis, ont immédiatement dégainé. Comment se fait-il que les voitures électriques chinoises arrivent en Europe sans taxe douanière, avec en plus le bonus écologique jusqu'à 7000 euros en France, alors que les véhicules occidentaux sont lourdement taxés en Chine, Gérard Carrère.
Écoutez, moi je voudrais simplement lancer un appel pour sauver la bagnole. La bagnole à la française.
C'est-à-dire,
regardez le parc automobile français. Il y a beaucoup de bagnoles qui ont plus de 5 ans, j'en parle même pas, 10 ans, 15 ans. Sortez de Paris et du 6e arrondissement. Et allez voir ce qui se passe à la campagne. Guilly, le fameux Guilly, dans son livre Les Dépossédés, explique comment les Français sont actuellement dépossédés, et il cite des possessions sociales, des possessions culturelles, des possessions des lieux de vie. Mais il devrait dire, quatrième dépossession, on essaye de les déposséder de la bagnole. Or, dès qu'on va dans
les... Dès qu'on va,
mais bien sûr, mais c'est ça. C'est ça qu'il y a derrière. Dès qu'on va dans les départements qui sont un peu isolés, on s'aperçoit de quoi. Il faut faire 20 bornes, 30 bornes, 50 bornes. Les familles ont besoin d'avoir plusieurs voitures, donc des vieilles voitures, enfin souvent des voitures d'occasion qu'ils achètent. Et ils peuvent de toute façon pas. Et on ne pourra pas transformer ce parc en bagnole électrique. Et on fait une folie. De la même manière que notre gouvernement a tué le nucléaire, on va d'abord tuer la voiture thermique et on va s'apercevoir qu'on a échoué sur la voiture électrique.
Et puis surtout, on va s'apercevoir qu'on n'a pas assez d'électricité pour faire marcher toutes ces voitures.
Donc, sauvons la bagnole.
Non, mais la crise du carburant actuel a rappelé la place capitale de l'automobile dans la vie des Français. Ça, c'est la première chose. Bon. Et les deux PDG, ceux de Renault
et Stellantis,
et ceux de PSA, ont totalement raison. Totalement raison. La manière dont le pouvoir politique, y compris l'Union européenne, se tire une balle dans le pied pour aboutir à un désastre industriel est sidérant. La France détient deux grands constructeurs automobiles de niveau mondial. Renault et PSA. Bon.
Stellantis, c'est 14
qui
marques.
Vont faire les frais du dogmatisme du tout électrique. C'est totalement invraisemblable parce que vous savez ce qu'il faut installer comme borne de recharge électrique sur le réseau routier français tous les 30 km.
Et alimenté par quoi ?
Ça ne marchera pas.
Mais le désastre est déjà dans le...
Qu'il faille augmenter la part de l'électrique, que ces constructeurs continuent leurs recherches dans l'innovation, notamment sur l'hydrogène, etc. Bien sûr qu'il faut une part de l'électrique. Il ne faut pas être têtu, il ne faut pas être aveugle. Mais de dire que de toute façon, en 35, c'est fini, il n'y aura plus de voitures thermiques, il n'y aura que des voitures électriques au prix où elles sont.
C'est ça.
Au prix où elles sont.
Et avec la guerre actuelle. et avec la guerre actuelle qui pose tous les problèmes de l'électricité. Moi, je trouve que c'est ça qui va le plus faire réfléchir les gens. On sait bien qu'il faut de l'électricité pour faire de l'électricité.
Mais c'est pour ça, quand le président Macron, on ne veut pas l'accabler, mais dit la solution, c'est augmenter la prime de 6 000 à 7 000.
Mais ça ne change rien.
Mais le leasing social
à 200 euros par mois. Comment voulez-vous payer 200 euros par mois alors quand vous gagnez 10 ou 14 000 euros?
Il est perché là-haut, il ne voit pas ce qui se passe en bas. C'est incroyable de dire une chose pareille.
Surtout que les voitures chinoises sont très chères. Les voitures,
les voitures électriques en général.
Parce
qu'alors
que lorsqu'ils vendent des vélos moteurs électriques, je peux vous dire que c'est pour rien. Mais tandis que là, les voitures, c'est très très cher. Par conséquent, je ne suis pas sûre que ça va résoudre aussi le problème de l'automobile en France.
En gros, ça vaut deux fois comme une voiture. Ça vaut aujourd'hui autour de 20 000 plus, 20 000 moins. Et la voiture électrique, il faut compter le double. Et vous ne pourrez pas, même avec 7 000...
Ça ne marchera pas.
Ça ne peut pas marcher.
Bon, vous savez quoi, on va rentrer à pied. Merci les grandes voix. Et on dit bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Eh bien, figurez-vous ce samedi, bonjour, avec la bande Emmanuel Rubin, Olivier Pousse. Nous sommes d'humeur charcutière. On va vous présenter la jeune garde de la charcuterie. Elle nous arrive tout droit de Marseille. Et Josiane Balasco sera des nôtres. À tout de suite.
À tout de suite, merci Laurent.